Chapitre 18. Un liseur de roman l'a déjà deviné. « Ouf !» dit Muller en voyant la chaise de poste emmener Pauline. « S'il fallait souvent conduire de pareilles intrigues, j'aimerais mieux essuyer le feu de la mousqueterie de mon régiment. J'espère cependant que je me tirerai de cette affaire-ci avec honneur. Le plus fort est fait. » J'avais cru que le chagrin d'Henri était ce qui devait me faire le plus de mal. Mais morbleu, je vois bien maintenant que les larmes d'une femme connaissent mieux le chemin de notre cœur. Me croyez pas si sensible. Tout en faisant ses réflexions, Mullern prit la route qui conduisait chez Jeanneton. Il la rencontra sur l'escalier et l'arrêta. « Eh bien, Jeanneton, comment va mon jeune homme ?»«
Il est toujours dans le même état que quand tu l'as amené. »
« Oh, coquin d'amour !»«
Dis-moi donc, Mullern, pourquoi il se désole ainsi ?»«
Pour une femme !»«
Mais est-ce qu'elle ne l'aime pas? Elle serait bien difficile. »«
Mais si, parbleu, elle l'aime. Ils ne peuvent pas s'épouser. »« J'en suis fâché quand ce jeune homme m'intéresse. Il paraît si sensible. »« Oui, c'est moi qui l'ai formé, c'est mon élève. »«
Je t'en fais mon compliment. »
Mullern s'empressa d'aller trouver Henri. Le jeune homme paraissait absorbé dans sa douleur, mais dès qu'il aperçut Mullern, il se leva avec vivacité et se jeta dans ses bras en versant un torrent de larmes. « Mais que vous êtes enfant !» lui dit ce dernier. « Allons, morbleu, tête à l'orage !»«
Où est-elle, Mullern? Dis-moi, qu'en as-tu fait ?»«
Elle est partie, monsieur. » Et elle a montré dans cette occasion un courage au-dessus de son sexe. Imitez-la, mon cher Henri, ne restez pas au-dessous d'un pareil modèle. Songez au chagrin que vous causeriez à celui qui vous sert de père, en vous laissant aller à une douleur inutile. Oh, je vous parle pas du vieux hussard qui a élevé votre enfance, qui vous aime comme son fils, et que votre désespoir conduira au tombeau. Hélas, votre malheureuse passion étouffe dans votre âme tous les autres sentiments. Car depuis que nous sommes réunis, après une aussi longue séparation, vous m'avez pas seulement serré la main. Vous n'avez pas daigné m'adresser le plus petit mot d'amitié. Et Muller ne put retenir les pleurs qui s'échappaient de ses yeux en prononçant ces mots. Henri s'en aperçut. Il se jeta à son cou, l'embrassa, le pria de lui pardonner, et lui promit d'être plus raisonnable. Muller n'en demandait pas tant d'avantages, et la paix fut bientôt faite. « Allons, mon cher Henri, nous allons retrouver mon colonel. Oh, je suis sûr qu'il vous attend avec impatience. »«
Mais pourquoi donc, Muller, n'est-il pas venu à Strasbourg avec toi ?»«
Oh, parce qu'un maladroit postillon nous a versé dans la forêt, à 6 lieues d'ici. » Et que mon colonel a eu le malheur de se blesser à une jambe.
Et où est-il maintenant?
Oh, dans une petite maison isolée, au milieu de la forêt, chez un homme dont la figure ne me revient pas du tout, mais il fallait bien entrer quelque part.
Henri se rappela l'aventure qui lui était arrivée dans la même forêt, et la raconta à Mullern.
Ho, oh, oh, si j'avais été là, dit ce dernier, notre coquin ne se serait pas échappé. « Mais vous vous êtes bravement conduit, et j'en suis content. »
Mullern et Henri, étant prêts à partir, quittèrent la maison de Madame Tapin. Mullern eut aussi les larmes de Jeanneton essuyées, mais il lui glissa un double louis dans la main et lui promit de revenir la voir dès que ses affaires le lui permettraient. Le colonel Framberg, que nous avons laissé depuis si longtemps dans la maison de Monsieur de Montervanville, était presque guéri de sa blessure et se disposait à aller rejoindre Muller à Strasbourg lorsqu'il reçut de lui la lettre que le lecteur connaît déjà. On peut aisément se faire une idée de sa surprise et de son inquiétude en apprenant des événements qui lui parurent inconcevables. Mais le style de Muller était tellement embrouillé qu'il ne sut à quoi se fixer et il attendit dans la plus grande agitation l'arrivée de ceux qui devaient mettre fin à son incertitude. Muller et Henri arrivèrent le soir même chez M. de Montervanville.
Ce fut Karl qui leur ouvrit la porte. Müller lui frappa amicalement sur l'épaule et lui demanda si son maître, M. de Montherainville, était chez le colonel. « Non, pas en ce moment, » répondit Karl. « Mon maître est sorti. »« Tant mieux, » dit Müller à Henri. « Profitons de la circonstance. » Ils montèrent rapidement l'escalier et trouvèrent le colonel se promenant dans sa chambre avec agitation. Dès qu'il aperçut Henri, il lui ouvrit les bras et Henri alla s'y précipiter. « Je ne te ferai pas de reproche, mon cher fils, » lui dit-il en l'embrassant. « Quoique la légèreté de ta conduite et ton peu de confiance en moi m'en donne le droit, mais tu es malheureux, d'après ce que Müller m'a écrit, et je ne veux pas augmenter tes souffrances. « Et moi, mon colonel, » dit Müller en s'avançant, « blâmerez-vous la conduite que j'ai tenue ?»« Non, non, mon ami, quoique la lettre que tu m'as écrite m'ait peu instruit de ce qui s'est passé, mais j'espère que vous allez me donner de plus amples détails. » Pour satisfaire la curiosité du colonel, Henri lui raconta succinctement ce qui lui était arrivé depuis son départ du château, ainsi que l'histoire de sa chère Pauline et la manière dont il avait appris qu'il n'était pas son fils. « Le hasard t'a rendu maître d'un secret que je t'aurais caché toute ma vie, » dit le colonel. « Tu dois donc être persuadé que jamais je ne cesserai de te tenir lieu de père. » Quant à ta sœur, elle devient aussi ma fille. Dès ce moment, je l'adopte, elle ne me quittera plus. Et lorsque le temps aura effacé de ton cœur et du sien une passion qui n'eût jamais existé, si vous eussiez connu les liens qui vous unissaient, tu viendras partager notre bonheur et l'augmenter encore par ta présence. Mais jusque-là, il faut de nouveau que je me sépare de toi, mon fils. Pour ne pas te rapprocher de celle que tu dois fuir. Tu vas encore t'éloigner du château de Framberg pour quelque temps, mais cette fois, Müller t'accompagnera. Ce n'est qu'à lui seul que je veux confier le soin d'un être qui m'est si cher. Et moi, pendant ton absence, j'essuierai les larmes d'une fille que j'aime déjà et qui me consolera de cette nouvelle séparation. » Henri embrassa mille fois le colonel, et lui exprima toute la reconnaissance que lui inspirait sa conduite noble et généreuse. Müller approuva beaucoup les arrangements de son colonel, et le plan qu'il avait formé fut accueilli de chacun. Comme la nuit s'avançait et que le colonel, fatigué des diverses sensations qu'il avait éprouvées, avait besoin de repos, ils songèrent à se séparer, et il fut convenu que le lendemain matin, ils quitteraient tous ensemble la maison des bois. La chambre où couchait le colonel ne renfermait qu'un lit. Müller engagea Henri à venir passer la nuit dans la sienne. Celui-ci y consentit, et après avoir embrassé le colonel, ils le laissèrent se livrer au repos. En traversant un long corridor qui conduisait à l'escalier, ils aperçurent dans le lointain un homme qui passait avec une lumière à la main. « Oh, c'est monsieur de Montherainville, » dit Müller à Henri. « Passons, passons, je n'aime point cet homme-là. » Mais Henri pensa que la politesse ne lui permettait pas de passer la nuit dans sa maison sans l'avoir salué auparavant, et que d'ailleurs il lui devait des remerciements pour la généreuse hospitalité qu'il avait accordée au colonel. D'après cela, il s'avança vers lui, et Müller le suivit en rechignant un peu et en enrageant contre les usages du monde. Monsieur de Montherainville s'arrêta en voyant Henri s'avancer. Celui-ci l'aborda en le saluant et allait lui adresser les remerciements qui lui étaient dus, lorsque, levant les yeux, il reconnut dans Monsieur de Montherainville un des deux assassins de la forêt. La langue de Henri se glace. Une pâleur subite couvre son visage. Il peut à peine articuler quelques sons confus. Et il entraîne Müller, qui ne comprend pas la cause de ce trouble violent. Quant à M. de Montherainville, il n'avait pu reconnaître Henri, puisqu'il s'était enfui au premier bruit des armes à feu. Et comme les scélérats craignent toujours de s'être trahis, M. de Panterville, très étonné du trouble que le jeune homme venait d'éprouver à son approche, résolut d'en connaître la cause afin de se tenir en garde contre les événements. Lorsqu'Henri fut arrivé dans la chambre de Mullern, il s'arrêta pour respirer plus librement. Ensuite, prenant la main de ce dernier, « Partons, mon ami, lui dit-il d'une voix entrecoupée, courons réveiller mon père, je ne veux point passer la nuit dans cette maison.
Oh, ça, morbleu, vous m'expliquerez ce que cela veut dire. D'où vient ce trouble, cette terreur?
Oh, Mullern, mais cette terreur est bien naturelle.
Craindriez-vous que quelque chose?
Oh non, je ne crains rien pour moi. Mais je frémis d'horreur en pensant que je suis chez un assassin.
Chez un assassin?
Oui, Mullern. J'ai reconnu dans ce monsieur de Monterenville un des deux hommes de la forêt.
Ça pourrait-il, mille bombes? Que quoi, ce coquin serait?
Oui, un de ceux qui voulaient faire périr l'étranger que j'ai sauvé de leurs mains.
Oh, terrible canonnade! S'écria Mullern en mettant la main sur la poignée de son sabre. Mais tombons sur ce coquin-là, morbleu, et faisons justice de son forfait.
En disant ces mots, Mullern se préparait à sortir pour exécuter son dessein, mais Henri le retint par le bras.
Arrête, Mullern, que vas-tu faire? Eh, parbleu, délivrer la terre d'un scélérat, il en restera encore assez.
Tu penses donc que nous n'avons aucune preuve à fournir de son crime et que nous serons punis nous-mêmes pour avoir voulu en faire justice?
Non, vous avez raison, mais comment donc faire?
Écoute, maintenant que j'ai réfléchi, je pense qu'il serait imprudent de faire un éclat qui ne te conduirait à rien. Attendons à demain. Mon père réglera notre conduite. Nous n'avons rien à craindre de cet homme, car il ne peut me reconnaître. Ce n'est pas à nous qu'il en veut.
Allons, morbleu, puisqu'il le faut. Je cède à vos avis. Mais j'avoue que ce n'est pas sans peine, car j'aurais eu bien du plaisir à dérouiller mon sabre sur le corps de ce brigand.
Cette résolution prise, Mullern et Henri se jetèrent sur le lit tout habillés. Mais ils ne purent goûter un instant de sommeil. La pensée qu'ils étaient chez un meurtrier révoltait leur âme franche et loyale. Le lendemain, dès que le jour parut, ils pensèrent qu'ils pouvaient aller réveiller le colonel sans donner de soupçons. Mais ces précautions étaient inutiles, car Monterenville savait tout. On se rappelle que le trouble de Henri lui avait causé de l'effroi. Aussi, dès que Mullern et son compagnon furent enfermés dans leur chambre, il se rendit dans une pièce qui touchait à la leur, ouvrit une armoire, se plaça contre la cloison, et de là entendit parfaitement toute leur conversation. On peut juger de sa terreur en sachant qu'il était reconnu. Mais la fin de leur discours le rassura un peu. Voyant qu'ils attendraient au lendemain matin pour décider ce qu'ils avaient à faire, il pensa qu'il serait prudent de ne pas attendre leur décision et quitta promptement la maison au milieu de la nuit. Le colonel Frambert ouvrit à ses compagnons, étonné d'être réveillé de si bon matin, mais encore plus en voyant avec quelle précaution Mullern refermait la porte de sa chambre et l'air de mystère qui était répandu sur leur physionomie. L'horreur et l'indignation succédèrent bientôt à la surprise, lorsqu'il sut chez qui il était depuis si longtemps. Cependant, il ordonna à Mullern et à Henri de se contenir et de ne pas laisser apparaître de leur agitation.
« Quoi, mon colonel ?» dit Mullern. « Est-ce que nous n'assommerons pas ce coquin-là ?»« Non, Mullern, notre devoir s'y oppose. Songe bien que depuis près d'un mois, je reçois l'hospitalité dans cette maison. Le maître est à Mons, mais ce n'est pas à moi à armer contre lui la justice. D'ailleurs, sois tranquille, Mullern,
Et crois bien que s'il échappe pour un instant à la peine qui lui est due, ce n'est que pour tomber plus tard sous le glaive des lois. Vous le voulez, mon colonel, j'obéis. Il le faut, car dans toute autre circonstance, j'aurais été le premier, mes amis, à vous engager à purger la terre de ce scélérat. Mais ne restons pas plus longtemps dans ce repaire du crime. Il me tarde d'aller respirer ailleurs un air qui ne soit pas souillé par le souffle d'un brigand. En disant ces mots, le colonel Framberg sortit de sa chambre. Henri et Müller le suivirent. Ils trouvèrent Karl dans la cour et apprirent que son maître était sorti avant le jour. Il a bien fait, dit Müller en recédant. Car morbleu, si je l'avais vu, n'aurait pas été maître de mon indignation. Le colonel monta à cheval, Henri et Müller n'en firent autant, et ils pressèrent leurs chevaux afin de se venir plus rapidement d'une maison qui leur faisait horreur. Chapitre 19. Encore un moment de gaieté. Nos trois voyageurs arrivèrent à Strasbourg et descendirent à la meilleure auberge afin de se reposer un moment avant de se séparer encore une fois. « Mon cher Henri, dit le colonel Framberg à notre héros lorsqu'ils furent seuls, je n'ai aucun ordre à te donner pour ta conduite future. Je me repose entièrement sur Müller du soin de ton bonheur. Si cependant tu te sens le désir d'entrer dans la carrière des armes, dans l'espoir de trouver de plus prompte distraction, je ne contraindrai point ton penchant. Au contraire, je te prie cependant, lorsque tu formeras un projet quelconque, de m'en prévenir d'avance. » Henri promit au colonel de ne rien faire sans l'avoir consulté. Le chagrin secret qu'il cachait au fond de son âme et qu'il s'efforçait de dérober à ses amis le rendait incapable de former aucun plan de conduite ni aucun projet pour l'avenir. Un seul objet occupait sa pensée, malgré tous les efforts qu'il faisait pour l'en bannir. Quant à Müller, il désirait avec ardeur que son cher élève prît le parti des armes. « Ah, disait-il à Henri, après 20 ans de repos, je reverrai encore avec joie le champ de bataille et les anciens compagnons de ma gloire. » Henri ne répondait pas, mais Müller espérait que les fréquents tableaux militaires qu'il lui retracerait finiraient par émouvoir son âme et qu'il se rendrait à ses voeux. Dans cet espoir, il engagea Henri à prendre la route de Vienne, et celui-ci consentit. Le colonel Framberg fit ses adieux à Henri. Ce dernier lui demanda pourquoi il ne l'accompagnait pas à Charlottenburg, mais le colonel s'en excusa sous le prétexte de quelques affaires qui le retenaient encore en France. Ce n'était pourtant pas là son motif, mais il ne voulait pas faire part à Henri du projet qu'il avait conçu, dans la crainte que la réussite ne vînt pas couronner son entreprise. Cependant, il confia son dessein à Müller en lui ordonnant le plus profond secret. Celui-ci le lui promit en admirant tout bas la conduite du colonel. Henri, après avoir embrassé celui qui lui servait de père, partit en portant le désir de le revoir bientôt et, suivi de Müller, prit de nouveau la route de l'Allemagne. Nous allons laisser le colonel Framberg se disposant à se rendre à Paris pour accomplir son noble projet et nous nous mettrons en route avec nos deux voyageurs afin de voir de quelle manière Müller m'y prit pour guérir Henri du chagrin qui le consumait. Notre hussard et son élève voyageaient à cheval. « C'est la meilleure manière de trouver des distractions, disait Müller à Henri. « Tenez, monsieur, jetez un coup d'œil sur ce site superbe qui se présente à nos regards. Voyez les vastes solitudes de la forêt noire qui s'étend au loin du côté de Freudenstadt et de l'autre la jolie ville d'Offenbourg que nous laissons derrière nous pour nous enfoncer dans cette prairie verdoyante. Les oiseaux qui chantent le retour du printemps, les laboureurs qui reprennent lentement leurs travaux rustiques. « Oh, en vérité, monsieur, tout cela élève l'âme, et nous donne à moi une éloquence dont je ne me serais jamais cru capable. » Henri souriait en écoutant Müller, Et celui-ci, charmé de l'avoir tiré pour un instant de ses tristes réflexions, continuait son discours sur les beautés de la nature. Tout en écoutant les descriptions de Mulherne, Henri s'aperçut que, sans y faire attention, il prenait la route du château de Framberg. Il se garda bien de le faire remarquer à son compagnon, mais celui-ci ne tarda pas à s'en apercevoir. « Oh !» dit-il en arrêtant tout à coup son cheval. « Je vois qu'avec mes beaux discours, je ne vous conduis pas du tout où il faut aller. Allons, morbleu, rebrousse son chemin. »« Pourquoi cela, mon cher Muller ?»« Parce que, monsieur, mon intention n'est pas de vous conduire au château de mon colonel. »« Ah, Muller, j'aurais cependant bien du plaisir à le revoir. »« C'est impossible, monsieur. Vous le reverrez plus tard. »« Mais maintenant, ça ne se peut pas. » Et tu dis que tu veux me distraire de mon chagrin, Mulherme? Crois-tu donc qu'il existe pour moi de plus agréable distraction que le plaisir que je goûterais à revoir ces lieux chéris où j'ai passé mon enfance, ces lieux où je recevais de toi les leçons qui m'ont appris à devenir un homme, ces lieux enfin que je n'ai pas vus depuis plus de 2 ans? Mulherme, attendri par les discours de son Henri, ne savait comment lui refuser ce qu'il lui demandait avec tant d'insistance. « Mais morbleu, monsieur, dit-il enfin, en prenant une voix sévère pour imposer à Henri, ne savez-vous pas que votre sœur est maintenant dans ce château et que vous feriez une sottise en cherchant à la voir? Et crois-tu donc, Mulherne, que ce soit là mon dessein? Non, je veux seulement m'approcher du château, en parcourir les environs. » Revoir ce parc, ces jardins, témoins de mes premiers plaisirs, et m'éloigner ensuite pour y revenir dans un temps plus heureux. Mais vous pouvez rencontrer votre sœur. Non, mon ami, il faudrait que le hasard la conduisît justement où je serais, et cela n'est pas à présumer. Je l'éviterai, te dis-je. D'ailleurs, tu ne me quitteras pas. Allons, vous le voulez. J'y consens, mais morbleu, à la première approche d'une femme, songez que je vous fais partir ventre à terre. Mais je ferai tout ce que tu voudras. Je suis en vérité trop complaisant. Mais la nuit s'avance déjà. Vous conviendrez, monsieur, que ce n'est pas le moment de visiter le parc et les jardins, d'autant mieux que nous avons encore près de 2 lieues à faire avant d'arriver au château. Eh bien, nous là, passons la nuit aux environs. « Tiens, dans cette ferme que tu vois là-bas, certainement on ne refusera pas à coucher pour cette nuit. Et demain matin, dès que le jour paraîtra, nous prendrons le chemin du château. »« Allons, soit, dit Muller, allons coucher à la ferme. » Nos voyageurs approchaient de la ferme, et Muller crut reconnaître la maison où, en cherchant une nuit son élève, il lui était arrivé une si plaisante aventure. Il résolut de s'assurer si ses conjectures étaient fondées. La nuit ne faisait que de tomber. La porte de la cour était encore ouverte. Muller entra le premier. Chaque objet qui frappait ses regards confirmait ses soupçons. Bientôt, ils rencontrèrent le fermier occupé dans l'étable. Mais il quitta sa besogne dès qu'il les aperçut et vint au-devant d'eux en leur faisant de profondes révérences. « Quoi que désirent ces messieurs ?»« À accoucher, mon ami, si cela est possible, » dit Henri au fermier. « Tu vois devant toi, » dit Muller en s'avançant, « le fils du comte de Framberg, le seigneur du château, qui est à 2 lieues d'ici. Et le maréchal des logis Muller, servant anciennement dans les hussards de l'empereur, et maintenant gouverneur de monsieur le comte. » Le fermier ouvrit de grands yeux en entendant tous ces titres, quoiqu'il n'y comprît pas grand-chose, et fit un tapage du diable pour appeler ses valets afin qu'on préparât tout ce qu'il fallait pour ces messieurs. « Holà, hé, Gros-Jean, Pierre, arrivez donc, vous autres !» Gros-Jean descendit aussitôt. « Mais où est donc Pierre ?» dit le fermier à celui-ci. « Dame, notre mère, ne savons pas. Peut-être ben qu'il est de la bourgeoise. » Muller se rappela en effet que Pierre était le garçon chargé des travaux extraordinaires et présuma, d'après le discours de Gros-Jean, que la bourgeoise tenait à ses anciennes habitudes. Cependant, au cri du fermier, Dame Catherine et Pierre arrivèrent tous deux par des chemins différents et rouges comme des écrevisses.
« Allons, notre femme, remue-toi, dit le fermier, et tâche de bien faire souper ces messieurs, tandis que Pierre préparera leur lit. »
La fermière, qui était alerte, fut bientôt servie à souper. Müller examinait avec curiosité les appas de celle qu'il n'avait connue que dans les ténèbres, et voyait avec plaisir que la dame avait bien son mérite, et que, quoique ne fût plus aussi jeune que Jeanneton, elle valait encore la peine qu'on montât au grenier pour elle. Catherine conduisit les voyageurs dans une salle basse, et tout en apprêtant leur souper, elle remarqua les œillades que Müller lui lançait en dessous. Un hussard de 50 ans ne vaut pas un garçon de ferme de 20, mais quand on a le garçon de ferme sous la main tous les jours, on est bien aise de tâter en passant d'un hussard, sans aucun préjudice du courant. Henri, qui n'existait plus que dans l'espérance du lendemain, mangea peu et se retira dans sa chambre afin de se livrer plus vite au sommeil. Mais Müller, qui était bien aise de voir ce que cela deviendrait, resta à table et invita le fermier à venir boire un coup avec lui afin de causer un moment. Müller, comme on sait, buvait sec. Le fermier voulut lui tenir tête, et la conversation ne tarda pas à s'échauffer. « Savez-vous bien, monsieur le hussard, quel titre que vous vous êtes donné de maréchal des logis du comte de Frauenberg me rappelle l'aventure qui m'est arrivée il y a près de 3 ans. Mais dis donc, te souviens-tu, notre femme, de ce coquin qui voulait se faire passer aussi pour un hussard ?»« Ah oui, oui, je m'en souviens, répond la fermière en souriant. « Qu'est-ce que cette aventure-là ?» demanda Müller au fermier. « Oh, pardine, je vais vous conter ça. Figurez-vous que c'est un voleux qui est venu frapper à notre porte au beau milieu de la nuit. Ma femme était couchée, mes garçons dormaient, et avec moi qui étions dans cette salle occupée à faire mes comptes. Je vais demander qu'est-ce qui frappe, et eh ben, n'a-t-il pas eu l'effronterie de me répondre qu'il était maréchal de logis, élève du comte de Frauenberg, afin de sonner pour ce que vous êtes, vous, quoi. » « Comment ?» dit la fermière à son mari. « Monsieur porte les mêmes noms que le voleux ?»«
Oui, Catherine, aussi, moi, comme il mentait, le gredin. »
La femme se douta de ce qui en était, et un coup de genou de Müller l'avertit qu'elle avait deviné. Le fermier, voyant combien son histoire amusait son hôte, se pesait à l'assaisonner de tous les détails possibles. Müller ne l'avait garde de l'interrompre, et se contentait de lui verser à boire à chaque minute, et la fermière, qui prévoyait où cela aboutirait, reprochait à son mari d'être plus sobre qu'à son ordinaire et de ne pas faire honneur à leur hôte en se tenant sur la réserve. En voulant tenir tête au hussard, le fermier ne fut bientôt plus en état de voir ce qui se passait autour de lui. Il ronfla, de manière à faire croire qu'il n'était pas prêt à se réveiller. Müller saisit l'instant favorable pour donner un baiser militaire à Dame Catherine, et je ne sais pas si la présence du mari l'eût arrêté dans ses entreprises. Mais la fermière, en ayant l'air de se défendre, se sauva dans sa chambre sans lumière, de peur d'être rencontrée par Pierre, et le hussard l'y suivit sans qu'elle appelât du secours. Au point du jour, Müller sortit de chez sa belle et vint s'asseoir auprès du fermier qui ronflait encore. La fatigue ne tarda pas à lui fermer les yeux et à lui faire tenir compagnie à son hôte. Henri, qui attendait avec impatience le moment où il reverrait le château de Frauenberg, se leva dès qu'il aperçut le soleil éclairer l'horizon. « Mais Müller, demanda-t-il à un garçon de ferme qu'il trouva dans la cour.
« Oh, monsieur, il ronfle d'une bonne manière, à côté de notre bourgeois.
Quoi, il dort encore ?
Oui, monsieur, dame, c'est qu'il paraît qu'ils ont bien soupé hier. Je ne peux pas le réveiller.
Eh bien, vous direz mon ami qui vient de me rejoindre au château. Cela suffit, monsieur. Henri, qui était bien aise que le hasard lui permît de courir au gré de ses désirs, monta à cheval aussitôt et s'empressa de faire route pour le château. À mesure qu'il approchait de ces lieux où il avait passé les plus heureux instants de sa vie, il sentait son cœur battre délicieusement. Un sentiment nouveau agitait son âme, et son coursier, semblant deviner les sentiments de son maître, ralentissait son pas afin de le faire jouir plus longtemps de ce moment de bonheur. Arrivé à la grille du parc, Henri attache son cheval à un arbre et entre doucement dans l'enceinte de ses premiers plaisirs. Avec quelle joie il revoit chaque bosquet, chaque allée, qui lui rappelle un temps où il faisait consister son bonheur à bouleverser les couches et arracher les jeunes plantes du jardinier. Qui sont d'où les souvenirs de notre enfance? Mais pourquoi porte-t-il avec eux une secrète mélancolie? Oh, c'est parce qu'on sait que le temps que l'on regrette ne renaîtra jamais. Au détour d'une allée, Henri se trouva nez à nez avec le jardinier. Le bonhomme reconnut son jeune maître et se mit à pousser des cris de joie. « Oh, silence !» lui dit Henri. « Je ne veux pas que les habitants du château soient instruits de mon arrivée. »
« Oh, c'est différent, monsieur, alors je me taisons. »«
Où est ton fils ?»« Franck, oh, monsieur, il est dans le château, est-ce que je présume ?»« Eh bien, va le chercher et dis-lui que je t'attends ici. »«
Oui, monsieur, j'y vais. »«
Mais songe à être discret avec tous les autres domestiques. »
« Oh, soyez tranquille, monsieur, je vous réponds de moi. »
Le jardinier court exécuter sa commission, et Henri attend avec impatience l'arrivée de Franck. Il a tant de choses à lui demander, tant de questions à lui faire. Sa seule crainte est que Müller ne vienne pas, par sa présence, déranger tous ses projets. Mais il voit enfin courir Franck et vole au-devant de lui.
« Ben, te voilà, mon pauvre Franck, que j'éprouve de plaisir à te revoir. »«
Mais moi aussi, monsieur, j'avoue que je m'y attendais pas. Mais la destinée est si bizarre. Il s'est passé tant de choses depuis que nous nous sommes vus. »«
Tu as raison, Franck, et j'attends de toi le récit de tout ce qui vous est arrivé. »«
Volontiers, monsieur, » dit Franck en soupirant. Henri remarque ce soupir et s'aperçoit que Franck a l'air triste, contraint.
« Grand Dieu !» s'écrie-t-il. « Qu'as-tu donc à m'annoncer, Franck ?
Serait-il arrivé quelque chose à ma Pauline, enfin à ma sœur ?»«
Oh, il m'est arrivé positivement, monsieur. Cependant... »«
Eh bien, cependant, mais dans ce moment, c'est que elle... »
Elle m'aimait par le nom, bourreau. Tu me fais mourir d'impatience.
Non, monsieur, c'est que j'ose pas vous dire.
Mais parle, ne me cache rien, je te l'ordonne.
Eh bien, monsieur, mademoiselle Pauline est très malade. Et dans ce moment même, on craint pour ses jours.
Grand Dieu ! S'écria Henri avec l'accent du désespoir. Ah, je cours, je vole.
« Arrêtez, monsieur, » dit Franck en le retenant par son ami, « à moins que vous ne vouliez la tuer tout de suite. Car dans l'état où elle est, et l'émotion que causerait votre présence inattendue, ne manquerait pas de la conduire au tombeau. »«
Ah, Franck, je ne pourrais donc pas la voir. Si faites, monsieur, vous la verrez, mais lorsqu'elle pourra supporter votre visite et que je l'aurai prévenue de votre retour. »
Mais apprends-moi donc pourquoi je la retrouve en cet état.
Vous volontiers, monsieur, ce ne sera pas long.
Quand nous quittâmes Strasbourg, mademoiselle Pauline montrait une fermeté, une résignation qui m'étonnait moi-même, car je me doutais de ce qu'elle souffrirait et de ce qu'elle souffrait au fond de son cœur. Mais la présence et les discours de Müller lui avaient donné alors un courage qui ne pouvait toujours durer. Notre voyage fut bien triste, comme vous pouvez le croire. En vain, je cherchais à la distraire en lui adressant la parole. Elle gardait le plus profond silence. Cependant, quand nous approchâmes du château de Framberg, elle parut agitée d'un sentiment nouveau. Elle me demanda si c'était là que vous étiez né, et s'il y avait beaucoup d'habitants au château, si monsieur le colonel y était. Et quand elle sut qu'il n'y était pas, elle parut plus rassurée et entra dans le château d'un air assez tranquille. Je lui fis donner, suivant les ordres de Muller, d'un des appartements les plus agréables. Je la conduisis dans le parc, dans les jardins, enfin, je lui fis voir tout ce qu'il y a de beau dans le château. Elle me remerciait de ce qu'elle appelait ma complaisance, avec ce sourire si doux que vous lui connaissez. Mais tous ses soins n'ont pu empêcher que, le lendemain de son arrivée, elle ne tomba malade. Et depuis ce jour, cela va de pis en pis, et depuis hier surtout, elle est dans un délire effrayant. Dans le délire, grand Dieu, s'écria Henri, et donne-moi la force de supporter tant de maux. Mais dis-moi, Franck, prononce-t-elle encore quelques mots? Par Dieu, je le crois bien. Tantôt c'est vous qu'elle appelle à grands cris, ou en vous nommant son époux ou bien son frère. Tantôt c'est son père qui est l'objet de ses craintes et de ses voeux. Et le plus souvent c'est vous, monsieur, qu'elle demande avec instance, et d'une manière si triste que ça fait mal à voir. Henri, accablé par le récit de Franck, reste un instant sans pouvoir proférer une seule parole, mais au bout de quelques minutes, il se lève avec précipitation de dessous le banc de gazon où il était assis et court de toutes ses forces vers le château. « Au nom du ciel, arrêtez !» lui dit Franck en courant après lui et en le retenant par son habit. « Laisse-moi, Franck, laisse-moi, te dis-je. Il faut que je la voie, je le veux. » « Eh, mille tonnerres, vous ne la verrez pas !» dit une voix rude qui fit tourner la tête à Henri, et il aperçut Mulherne, qui lui barrait le passage et ne paraissait pas d'humeur à le lui céder.